Badania europejskie.
Cruzamento da Europa.
Rozkrucia Europy.
Stavrodromy tis Europis.
Treffpunkt Europa.
The hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquelles.
Bonjour, bienvenue au Carrefour de l'Europe. La France est l'un des 6 pays fondateurs de l'Union Européenne et longtemps, les Français ont cru que l'Europe, c'était la France en plus grand et ils s'en sont très bien accommodés. Le grand élargissement à l'Est en 2004 et donc une dissolution de l'influence française a soudain jeté un trouble dans leur esprit. Le non au référendum de 2005 sur la Constitution Européenne en a été une illustration. Depuis, les Français cultivent un sentiment ambigu à l'égard de l'Union Européenne et plus généralement avec la mondialisation. L'Europe est par exemple perçue comme trop peu protectrice, sur le plan social, et très permissive sur les questions migratoires. Le paradoxe européen des Français peut même tourner à la schizophrénie. Au premier tour de la présidentielle, 7 candidats sur 11 étaient ouvertement anti-européens, alors que dans le même temps, 70% des Français sont favorables à l'euro. Et à la veille du deuxième tour entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, l'Europe est au centre de leur affrontement. La France et l'Europe, une incompréhension et un malaise, nous allons tenter de comprendre pourquoi avec ceux qui nous ont rejoints autour des micros de Carrefour de l'Europe. Bonjour Pierre Asking.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, chroniqueur de politique internationale à l'Obs. Votre dernier livre, Le droit au bonheur, La France à l'épreuve du monde, est paru chez Stock. C'est vrai que la France a un peu de mal avec le monde d'une manière générale. On va y revenir, mais en un mot.
Oui, tout à fait. Je pense que la France est en fait de plein pied dans la mondialisation sans l'avoir vraiment assumé et sans l'avoir décidé.
Barbara Loyer, bonjour. Vous êtes professeur à l'Institut français de géopolitique de l'Université Paris 8, membre du comité de rédaction de la revue Hérodote. Hérodote qui consacre d'ailleurs son dernier numéro à l'Europe avec un titre un peu inquiétant.
Menace sur l'Europe.
Oui, c'est inquiétant, non?
Oui, c'est inquiétant, oui, parce qu'effectivement, s'il n'y a pas une mobilisation des citoyens qui pensent que cette Union européenne doit continuer, ça n'est pas à gagner.
Stéphane Sonador, bonjour, guten Tag.
Oui, bonjour de Strasbourg.
Vous êtes le directeur adjoint de l'Institut franco-allemand de Ludwigsbourg. Merci d'être en ligne, non pas de Ludwigsbourg, mais de Strasbourg, grâce à France Bleu Alsace. Un petit mot sur l'Institut franco-allemand de Ludwigsbourg que tout le monde ne connaît pas.
L'Institut, il fait beaucoup d'expertise sur la France en Allemagne, sur l'Allemagne en France, au point que ce week-end, j'avais perdu la voix, tellement on nous a demandé notre avis et les Allemands s'intéressaient à l'élection présidentielle en France.
Et pas seulement, merci. Ariane Forgue et Baptiste Neu, bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Vous êtes étudiant, vous l'étiez il y a encore peu de temps, hein, et vous êtes initiateur d'un projet qui s'appelle Des Europes et deux hommes, en deux mots.
En deux mots, c'est un tour de France citoyen qu'on a entrepris pendant 6 mois, au cours duquel on a donc traversé plus de 300 villes pour accueillir les idées des gens sur l'Europe de demain.
Donc vous avez rencontré des dizaines et des dizaines de Français, de Françaises.
Voilà, exactement.
Même dire des milliers.
Environ 5000 a priori.
5000 ?
Un peu plus de 5000.
Bon, alors vous allez nous raconter évidemment ce qu'ils ont pu vous dire, mais 5000 c'est plus qu'un échantillon comme on dit à l'IFOP ou à la Sofresse. Hein.
Et puis avec une équipe plus petite, on était deux.
Donc vous les avez rencontrés dans la rue, sur les marchés, en frappant à leur porte.
Exactement. Oui. Du porte-à-porte de temps en temps, et principalement, effectivement, dans la rue.
Que pensent les Français de l'Europe, justement? Maria Afonso n'a pas fait, elle, un tour de France, mais elle a tendu son micro dans les rues de Gentilly. Gentilly, c'est une commune qui jouxte Paris. Impression.
On n'a pas le choix. Même si je pense qu'il faudrait revoir certaines mesures pour notre pays, notamment le retour des frontières et un meilleur contrôle des flux, à la fois au niveau économique, mais aussi au niveau migratoire. En tout cas, c'est ce que je pense. Garder un petit peu aussi notre identité, qu'on soit maître de notre pays, tout en respectant les règles européennes. C'est ce que je pense.
On en est quand même arrivé assez loin, là. On ne va pas changer maintenant. Hein. On est trop engagés, là. Imaginez un petit peu après ce qui peut se passer. Hein, si on connaissait l'avenir, d'accord, peut-être. Mais là, je crois qu'on est allé trop loin. Et qu'est-ce qui sera mieux après? On n'en sait rien.
Moi, personnellement, je pense qu'on ne peut pas changer. On y est. Pas comme les Anglais. Les Anglais, ils avaient leur monnaie. Nous, on ne l'a pas. C'était avant qu'il ne fallait pas y aller. Pas maintenant.
Il faut remettre les frontières en Europe. Et j'oserais même dire entre les pays européens. Pour filtrer comme on faisait dans le temps, il faut revenir à des méthodes plus sécuritaires, je veux dire. Il faut revoir en profondeur les règles. Voilà.
Pour ma part, je vois que les Anglais sont sortis de l'Union Européenne. Et pourquoi pas nous, après tout? Ce sera peut-être un mieux. Je pense qu'on s'en sortait mieux quand on était en francs. Je trouve que, alors oui, les salaires ont augmenté, hein, ça c'est sûr, heureusement d'ailleurs. Mais pour tout ce qui est prix, on s'en sort pas, quoi, finalement. On galérait moins, je trouve, en francs que là, avec l'euro.
Ce n'est évidemment qu'un micro-trottoir, c'est-à-dire quelques fragments d'impressions recueillis furtivement, mais on entend une forme de résignation, de dépit, de confusion, d'incompréhension. Pierre Assicky, est-ce que cela révèle un désamour de l'Europe ou autre chose, un désarroi plus profond?
Je pense que c'est plus profond, mais il y a quand même un rapport à l'Europe qui a beaucoup évolué. Il faut quand même se souvenir, et on l'a souvent oublié, dans les années 80, l'Europe était la nouvelle frontière mentale de la France. C'était un projet qui suscitait l'enthousiasme, peut-être parce que elle était dirigée par un Français, Jacques Delors, et que on avait l'impression, comme vous l'avez dit dans le lancement, que l'Europe c'était une grande France et que effectivement dans ce monde d'affrontement de puissance, etc.,
qui était bipolaire à l'époque.
Oui, la France était peut-être plus de la bonne taille et qu'il fallait passer à l'échelle supérieure et que l'Europe allait permettre à la France de se démultiplier. Il s'est passé une chose, c'est qu'il y a eu à la fois l'élargissement effectivement qui a brouillé, je pense, l'identité de l'Europe. Il y a eu aussi quand même l'incapacité de la France à régler ses problèmes économiques et sociaux et que le bouc émissaire évident, ça a été la mondialisation, les frontières ouvertes, les délocalisations. Et à ce moment-là, l'Europe a changé de nature dans la vision des gens. Elle est plus devenue cette Europe protectrice et puissante qui allait nous permettre d'influer sur le monde. Elle était au contraire devenue une menace. Elle a été perçue comme une menace impersonnel en plus, parce que il y avait plus de l'or, il y avait des petits hommes gris dont on connaissait à peine le nom, un fonctionnement qui tout d'un coup nous est apparu comme complexe là où avant peut-être qu'on s'y intéressait pas trop, et le débat sur la constitution en 2005 a été le révélateur de cette complexité. On nous demandait de voter pour une constitution que personne, et peut-être pas même 1% des Français ne pouvait expliquer en 3 phrases simples et claires.
Seul Valéry Giscard d'Estaing avait lu de la première à la dernière page, il en était le président.
Peut-être.
Barbara Loyer, dans ce petit micro-trottoir, on a beaucoup entendu les mots de frontières. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, la géographe?
Surtout l'idée là que ça serait un petit peu le seul élément de choix que les personnes qui ont répondu pensent avoir. C'est-à-dire ils ont commencé en disant on n'a pas le choix. En parlant de la dimension économique, on est allé trop loin, on n'a plus la monnaie, mais la frontière, ça ressemblerait à un élément finalement tangible. Ça a l'air assez simple, en fait, de pouvoir remettre des frontières en route. Et ça serait un élément territorial sur lequel on aurait peut-être encore une possibilité de décision.
Ariane et Baptiste, est-ce que ce qu'on vient d'entendre, c'est un peu conforme à ce que vous aussi, vous avez entendu, vos 5000 interlocuteurs que vous avez rencontrés dans les rues, sur les marchés, est-ce qu'ils vous ont dit des choses voisines ou pas?
Sur la question des frontières, effectivement, il y en a beaucoup qui parlaient de renforcer les frontières extérieures de l'Union européenne. Après, la question des frontières nationales, c'est revenu en particulier avec des enjeux électoraux. C'est vrai qu'il y a eu cette question des frontières, mais c'était pas la priorité, en fait. La priorité, selon ce que nous, on a senti, c'est que même les gens, enfin, en particulier les gens eurosceptiques, qui se présentaient comme tels, anti-européens même, en fait, l'étaient pas vraiment. L'immense majorité d'entre eux voulaient que l'Europe aille plus loin. Donc, en fait, il y avait une espèce de désillusion. Il y avait beaucoup de questions d'harmonisation. Ça peut paraître curieux quand on pense que la majorité française est vue comme eurosceptique, ce qui n'est pas du tout le cas finalement, parce que les gens voudraient plus d'harmonisation fiscale, plus d'harmonisation sociale, et ce qu'ils voudraient surtout, c'est l'égalité entre les peuples européens et les pays européens.
Ce qui n'est pas d'ailleurs contradictoire avec ce sentiment eurosceptique qui est très fort. On peut rappeler qu'en gros, au lendemain du premier tour, 50% des Français ont voté pour un candidat anti-européen et 50% pour des candidats pro-européens. Baptiste, vous vouliez rajouter quelque chose?
Oui, mais cet euroscepticisme, c'est plus sur la déception. C'est pas un rejet du projet européen. C'est vraiment un rejet de l'Europe actuelle. Et donc, cette question binaire du oui ou non à l'Europe est peut-être
dépassée.
Il faudrait réussir à avoir quel projet on veut pour l'Europe et pas oui ou non.
On va essayer d'en dire un petit mot à la fin de cette émission. On est au tout début. Alors, Stéphane Seydanov, je disais en introduction que pour la France, l'Europe, c'était la France en plus grand. Cela était vrai plus ou moins jusqu'à la chute du mur de Berlin. Ce n'est plus vraiment le cas aujourd'hui depuis la réunification allemande et depuis l'élargissement à l'Est et puis depuis que l'Allemagne s'est 80 millions d'habitants, est toujours la première puissance économique européenne.
C'est surtout la perception française des choses, hein, qu'on se plaît dans certains milieux, en France au moins, dans un déclinisme et dans un complexe d'infériorité, je dirais presque envers cette Allemagne redevenue puissante. Il ne faut pas oublier que l'Allemagne, elle est certes un peu plus grande, mais elle a aussi dû intégrer ces 16 millions d'Allemands de l'Est, reconstruire un pays qui était en mauvais état, hein, qui était dévasté, l'Allemagne de l'Est, après la gestion de l'époque communiste. L'Allemagne, certes, elle cherche sa place, elle est plus puissante que ça a été le cas avant l'élargissement, mais un deuxième aspect encore, cet élargissement envers l'Est.
Stéphane, ce que je veux dire aussi, c'est que l'Allemagne s'est jamais perçue comme l'Europe pour l'Allemagne, ça n'a jamais été perçu comme l'Allemagne en plus grand.
Certainement pas. L'Allemagne de l'Ouest, après la guerre, elle a cherché à construire une identité contre le passé allemand. L'idée, c'était en montrant qu'on était des très bons Européens, en faisant quelque chose d'exemplaire avec les voisins, avec les autres Européens, on allait pouvoir laisser derrière ce passé fasciste, impérial, qui n'était pas vraiment une base pour construire une identité démocratique.
Donc, des visions de l'Europe, pardon, dès le début de la construction européenne.
Oui, tout à fait. Et ils ne sont pas mutuellement exclusifs. Hein. On a pu très bien se retrouver, notamment, ça dépendait un peu dès le début aussi d'une phase d'un élément politique. On s'est très bien retrouvé avec les gouvernements socialistes ou de centre, les MRP de Schuman. Et ensuite, vous avez déjà évoqué les années Delors et Mitterrand. C'était toujours un peu plus compliqué quand il y avait un gouvernement de droite en France. Mais même là, souvenez-vous d'Adenauer et de Gaulle, on a pu trouver des compromis, on a pu réorienter l'Europe selon les préférences politiques des uns et des autres.
Pierre Aski, la France est une puissance moyenne qui a du mal à admettre qu'elle n'est plus une grande puissance. Pourquoi ?
Parce que d'abord, elle s'est beaucoup gargarisée de mots, il faut bien le dire, depuis De Gaulle, ça a été un des moteurs d'ailleurs de la reconstruction de la France après la guerre, et en particulier lorsque le général De Gaulle est arrivé au pouvoir, c'est cette idée que la France avait une place exceptionnelle, que c'était une manière aussi de reprendre confiance qui était usurpée, il faut bien le dire. On s'est raccroché ce poste au Conseil de sécurité, un peu une extrémiste, c'était pas prévu dès le début, et ça a été l'objet d'un compromis entre les grandes puissances. La France a perdu son empire colonial, elle a une économie moyenne, certes pour des raisons logiques, notamment de contrepoids à l'Allemagne dans les années d'après-guerre, elle s'est retrouvée grande puissance, mais la réalité, et c'est pas faire injure à la France d'être anti-français que de dire ça, la réalité c'est que la France est une puissance moyenne qui devrait arrêter de se gargariser de mots, et c'est pas une honte d'être une puissance moyenne, et peut-être que ça nous aiderait à rentrer un peu plus dans le jeu européen, qui est un jeu de compromis, d'équilibre, de construction de coalition aussi, ce que la France fait très mal. Elle est très mal habile dans les jeux de coalition à l'intérieur de l'Europe. Et je suis très frappé justement que dans la campagne électorale, certains candidats arrivent en disant, on va aller les voir et on va dire, voilà, nous sommes la France. Et c'est à prendre ou à laisser. C'est le discours de Jean-Luc Mélenchon, c'est aussi le discours de Marine Le Pen.
Ils étaient six autres, hein, puisqu'au total, il y avait, sept candidats.
Je parle parmi les plus importants. Et cette idée qu'en Europe, on fonctionne en arrivant et en disant c'est comme ça, c'est à prendre ou à laisser, et si vous voulez pas, on s'en va, c'est l'antithèse de la manière dont l'Europe s'est construite pendant 60 ans. Donc, et ça, c'est le résultat, à mon avis, de ce syndrome de la grande puissance. Alors, les Allemands ironisent toujours sur la grande nation. En français dans le texte, dans la presse, lorsque la France a ses accès de mégalomanie, et c'est pas faux.
Barbara Loyer, donc l'Europe ne ressemble pas à la France, on est en train de le comprendre petit à petit, mais ce sentiment n'est pas le seul responsable de ce désarroi et cette forme de pessimisme latent. Qu'est-ce que on a raté, quand je dis on, c'est les hommes politiques, les intellectuels, les Français, pour qu'on en arrive à cette sensation que, eh bien, le pays est en déclin.
Alors oui, le terme de déclin est utilisé par beaucoup de gens, et cette hantise du déclin, elle vient aussi des difficultés sans doute internes à consolider cette nation française aujourd'hui. La décolonisation s'est mal passée, la question postcoloniale est très importante en France. Donc du coup, cette mutation, on va dire, vers un pays qui n'est plus colonial, elle s'est mal faite. La francophonie n'empêche pas le déclin de la langue française, ou plutôt le fait qu'il y a quand même beaucoup d'Européens qui apprennent la langue française, mais malgré tout, le nombre de documents traduits au sein des institutions européennes en français diminue, et c'est la langue anglaise qui s'impose un peu partout. Donc ça se fonde, si vous voulez, sur un certain nombre de faits concrets qui, en effet, amènent la France petit à petit vers le sentiment d'une perte de son importance.
Ariane Baptiste, est-ce que le thème du déclin, c'est un mot qui est revenu assez souvent parmi les gens que vous avez rencontrés ?
Assez peu.
Assez peu, finalement ?
Vraiment, oui. Mais je pense qu'il était assez rare, finalement. La majorité des gens, du coup, on les incitait à apporter des propositions constructives, etc., à résoudre, finalement, les problèmes qu'ils identifiaient eux-mêmes. Et du coup, la vision de la France prestigieuse, etc., est moins revenue qu'on le pensait. Et d'ailleurs, il y a une bonne partie des gens qu'on a rencontrés qui nous disaient c'est absolument ridicule de faire déménager le Parlement européen à Strasbourg pour 4 jours par mois, avec tous les coûts économiques, les coûts écologiques que ça comporte. Et quand on leur demandait est-ce que vous seriez prêt à ne plus avoir d'institution européenne dans votre pays, ils disaient oui, bien sûr. Enfin, si ça fait pas sens.
Sauf quand vous êtes allé en Alsace et que vous avez posé la même question à Strasbourg, bien évidemment.
Il y a moins de gens qui parlaient de ça.
Bien évidemment. Stéphane Seydendorf, si on juxtapose les deux mots à Allemagne et déclin, c'est deux mots qui n'ont aucun sens pour les Allemands.
Regardons un peu dans le passé, dans le long terme. Hein. Il y a 10 ans, il y a 15 ans, l'Allemagne, c'était l'homme malade de l'Europe. Et les Allemands, les médias, ils étaient pleins d'émissions où on discutait le déclin de l'Allemagne. La démographie, bon, c'est toujours problématique. La force économique, l'adaptation à la mondialisation, tous ces éléments, on les a discutés. Il y a 10-15 ans, en Allemagne, c'était un moment qui était tout à fait comparable à ce que la France, elle vit aujourd'hui. On n'avait pas réussi à vraiment intégrer l'Allemagne de l'Est, à vraiment fusionner les deux pays. On n'avait pas réussi à sortir des problèmes économiques dus à la réunification. Et l'ambiance était morose avant les réformes que le gouvernement de Gerhard Schröder avait entamées.
Mais l'Allemagne a su se remettre en cause. C'est peut-être ce qu'a un peu de mal à faire la France, Pierre Aski. Peut-être un pied trop tourné vers le passé. On est quand même les rois de la commémoration. Dès la première année, on commémore à 5 ans, à 10 ans, à 15 ans, à 20 ans, et on trouve une multitude de choses à commémorer. Comment gérer cette histoire? On est victime de ce poids de notre histoire, selon vous?
Alors, non, je ne pense pas que ce soit seulement ça. Je pense que c'est aussi un rapport aussi à la démocratie. Et je pense que 2005 et ce référendum ont été une blessure qu'on a mal refermée. Effectivement, les Français ont voté majoritairement non, mais on a fait rentrer la même loi par la porte de derrière. Et je pense que c'est quelque chose qui reste très profondément ancré, c'est que on est dans ce processus européen sans avoir la possibilité démocratique de dire ce qu'on pense. Et là, on est dans un on paye peut-être une ambiguïté. Vous savez, Delors avait cette expression permanente qui était l'Europe, c'est un OPNI, un objet politique non identifié, qui était de dire voilà, on ne sait pas si c'est fédéral, confédéral, etc. On ne sait pas où est le bout de la route, mais on avance et on avance de manière pragmatique, étape après étape. Et cette idée que on ne sait pas où on va. Tout d'un coup, quand vous avez un rejet d'une constitution et qu'on vous la ramène par la porte de derrière, eh ben, dans la tête des gens, sans être particulièrement complotistes, on dit, ben oui, mais il y a un chemin qu'on nous fait avaler à coups de potions magiques sans nous le donner la possibilité de peser. Et je pense que cette blessure de 2005, on est maintenant plus de 10 ans après, elle n'est pas refermée.
Sauf Pierre Assis, en 2005, il y avait 25 pays, il y a eu 4 référendums, il y a eu 2 oui, 2 non. Les Espagnols ont dit oui à la constitution européenne, les Luxembourgeois aussi, et les Néerlandais, les Français, oui, on dit non. Alors qu'est-ce qu'on dit aux Espagnols qu'on dit oui, mais qu'on aurait dû dire.
Oui, mais les Néerlandais, le fait que les Néerlandais aussi ont dit non, puis les Irlandais dans un autre cas, etc., montre que c'est pas un problème spécifiquement français et qu'aujourd'hui on voit bien que la poussée populiste, la poussée, disons, d'un anti-européanisme à marche forcée, se heurte à des obstacles partout. Moi, j'étais en Pologne hier, je reviens d'un colloque à Varsovie. On a un problème aujourd'hui avec la Pologne et la Hongrie, qui sont des pays dont les gouvernements violent allègrement aujourd'hui non seulement les principes européens, mais aussi les valeurs européennes. Et on n'est pas dans une crise de nerfs franco-française. Je pense qu'on a un problème qui est celui de cette construction européenne globalement, que les Français l'expriment peut-être avec une brutalité un peu plus grande.
Ariane Damou, vous vouliez ajouter un petit mot?
Oui, par rapport à la Constitution de 2005, c'est vrai que beaucoup de gens, y compris des gens qui avaient voté pour cette Constitution, se sentent assez trahis par rapport à ça. Et c'est pour ça qu'il y a une des propositions qui revient assez souvent au cours de Tour de France, qui est de créer des référendums à l'échelle européenne. Et ça fait sens pour beaucoup de gens.
Merci pour cette première proposition. Peut-être qu'il y en aura d'autres dans la deuxième partie de l'émission. En tout cas, on va faire une petite pause tout de suite sur RFI, la radio de l'Europe et du monde. Le temps de prendre connaissance des toutes dernières nouvelles de la planète. À tout de suite.
Tkania europejskie.
Krusymiantu d'Europa.
Rozkrucia Europy.
Stavrodromy της Ευρώπης.
Treffpunkt Europa. The Hub of Europe.
Carrefour de l'Europe. Daniel Desesquelles.
Rebonjour, Carrefour de l'Europe, deuxième partie. La France est l'un des 6 pays fondateurs de l'Union Européenne et longtemps, les Français ont cru que l'Europe, c'était la France en plus grand et ils s'en sont très bien accommodés. Le grand élargissement à l'Est en 2004 et donc une dissolution de l'influence française a soudain jeté un trouble dans leur esprit. Le non au référendum de 2005 sur la Constitution Européenne en est une illustration. Depuis, les Français cultivent un sentiment ambigu à l'égard de l'Union Européenne et plus généralement avec la mondialisation, à tel point qu'au premier tour de la présidentielle, 7 candidats sur 11 étaient ouvertement anti-européens. Paradoxe, car dans le même temps, 70% des Français sont favorables à l'euro. Comme on peut le constater chaque jour, à la veille du deuxième tour, entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, l'Europe est au centre de leur affrontement. La France et l'Europe, une incompréhension et un malaise. Je vous représente les invités qui nous ont rejoints autour des micros de Carrefour de l'Europe. Pierre Aski, les journalistes chroniqueurs de politique internationale à l'Obs. Son dernier livre, Le droit au bonheur, la France à l'épreuve du monde, est paru chez Stock. Barbara Loyer, professeure à l'Institut français de géopolitique de l'Université Paris 8, membre du comité de rédaction de la revue Hérodote. Stéphane Schendendorf, directeur adjoint de l'Institut franco-allemand de Ludwigsburg. Il est entendu non pas de Ludwigsburg, mais de Strasbourg. Et Ariane Forg et Baptiste Hainaut, ils étaient étudiants il y a encore peu de temps, ils sont initiateurs d'un projet formidable qui s'appelle Des Europes et des Hommes. Avant de reprendre notre débat, nous allons faire un détour par la rédaction du Courrier International. Bonjour Corentin Pénarguéa.
Bonjour Daniel.
C'est peu dire que la presse européenne se passionne pour ces élections et évidemment elle s'inquiète quant au résultat final. Quelle place pour la France dans l'Europe et quel avenir pour l'Europe ?
Et oui, effectivement, en fait, la presse étrangère, elle a bien remarqué que ce second tour, il voyait s'affronter deux visions de la France dans le monde. Alors, une qui a tendance à les rassurer, hein, faut bien le dire, avec un Emmanuel Macron pro-européen et ouvert aux échanges internationaux. Et une qu'il redoute plus que tout, hein, celle de Marine Le Pen, avec une France fermée sur ses frontières et jugée très largement xénophobe. Alors, après ce premier tour, on a d'un côté les optimistes, comme le journal conservateur italien Il Folio, qui voit dans la percée de Macron le signe d'une renaissance européenne, hein, carrément, dans ce que le quotidien appelle tout simplement le pays le moins europhile d'Europe. Ils n'ont pas oublié le traité européen de 2005 rejeté par les Français. Et pour le journal italien, eh bien, ce qui a été le plus remarquable dans la campagne d'En Marche, eh bien, c'est que ce mouvement a été porté au second tour en brandissant des drapeaux européens, une chose qu'on ne voyait plus du tout ces dernières années dans les meetings politiques en Europe. Et Il Folio en fait même la clé du succès de Macron, puisqu'ils estiment qu'avec ce vote, eh bien, les Français ont retenu les leçons du Brexit, qui, d'après le journal italien, se passe chaque jour de manière plus complexe et hasardeuse.
Alors, il y a les optimistes, vous les avez évoqués, Corentin, et puis il y a évidemment les pessimistes en Europe, il y en a quelques-uns forcément.
Oui, alors par exemple, on va en citer un, le quotidien autrichien de centre-gauche Der Standard, qui lui remarque surtout la large part d'électeurs français qui ont donné leur voix à des candidats europhobes et anti-mondialisation. Alors le journal se demande comment, dans le berceau des droits de l'homme et de l'idée même de l'Europe, ce sont les adversaires de l'Union européenne qui peuvent ainsi donner le ton du débat général aujourd'hui et provoquer un repli sur soi de la France. Der Standard pense d'ailleurs que, quel que soit le résultat du 7 mai, eh bien cette colère contre l'Europe, elle va continuer en France, puisque d'après lui, les souverainistes Le Pen et Mélenchon vont se battre de toutes leurs forces contre un possible gouvernement pro-européen et que celui-ci, eh bien, sera de toute façon pas bien aidé ni par les socialistes ni par les républicains, déjà trop occupés à régler leurs batailles internes.
Merci Corentin, Courrier International l'hebdo et courrierinternational.com le site. Alors pendant le flash, on a une petite conversation avec Strasbourg et avec Stéphane Seydorf qui dit mais il faut quand même dire du bien de l'Europe parce qu'on a dit ceci, là, la constitution 2005, le référendum qui n'a pas été respecté, en tout cas en France, mais pas pour les Espagnols qui eux avaient dit oui. Et Stéphane, Seydorf nous disait, mais on peut quand même dire du bien sur l'Europe. Qu'est-ce que vous avez envie de dire, Stéphane Seydorf, sur l'Europe? Un espace de paix, de prospérité, de respect des minorités, de l'état de droit?
Tout à fait. Même en France même, hein, on parle depuis quelques temps maintenant, depuis cette crise en 2007, maintenant d'ambiance morose quand on parle, dès qu'on évoque l'Europe. Mais le truc formidable, ce qui me frappe vraiment, c'est quand même qu'il y a la personne qui a gagné le premier tour des élections présidentielles, Emmanuel Macron, il a gagné sur un programme pro-européen. Il s'affiche avec des drapeaux européens, pas un Européen de la dernière heure, un Européen convaincu, enthousiaste, qui dit qu'il aime l'Europe. Donc ça, c'est très surprenant, vu de l'extérieur, quand on a pu observer ces déchirements français au doigt de la Constitution 2005 et la suite. Et étonnamment, on trouve quelque chose de semblable dans d'autres pays de l'Europe, notamment en Allemagne, où on a, comme vous le savez, aussi eu un mouvement anti-européen, eurosceptique avec l'Alternative pour l'Allemagne et l'AFD. Et depuis peu, on a aussi un mouvement pro-européen qui s'agite avec des drapeaux européens, qui dit du bien de l'Europe et qui est amoureux de l'Europe.
Alors, dans la première partie de l'émission, on a dit et redit que pour la France, l'Europe, c'était un peu la France en plus grand. Barbara Laurier, ce qu'on peut dire aussi, c'est que au moment où l'Europe se crée, dans les années 50, l'Europe est au centre du monde, et ce n'est plus le cas aujourd'hui, ce qui quand même fait naître un trouble chez les Européens.
Oui, moi j'aurais tendance quand même à rappeler que cette colère contre l'Europe dont on parle beaucoup, c'est pour une bonne partie des électeurs qui s'expriment derrière des candidats qui disent pique-pendre de l'Union Européenne, c'est une colère contre le capitalisme financier, et c'est une colère contre l'accroissement des inégalités. C'est-à-dire, il se trouve que l'Europe est le bouc émissaire, mais...
C'est le fameux « c'est la faute à Bruxelles ».
C'est la faute à Bruxelles, ou en tout cas l'Europe serait, l'Union Européenne serait le cheval de Troie d'un capitalisme financier qui finalement accroissent les inégalités. Et je pense que quand on parlait tout à l'heure d'un sentiment de déclin que peuvent partager les Français, je pense aussi que les Français partagent une forme de fierté, on va dire, de leur nation, en ce sens qu'elle a été résistante. Je pense qu'il y a une représentation de soi comme ayant un potentiel révolutionnaire, une capacité à transformer le monde. Et ça rentre, on va dire, paradoxalement, dans la lutte contre une Union européenne qui ne serait que bureaucratique, non démocratique, à la botte de la finance internationale. C'est tout le mon ennemi, c'est la finance. C'était quand même ce qui a permis, entre autres, permis à François Hollande d'arriver au pouvoir.
Donc mais il ne peut pas se représenter une deuxième fois, néanmoins.
Voilà. Mais donc, alors, je veux dire, quand même, il y a cet anti-européisme,
aussi...
il est... compliqué, quoi.
Elle a aussi une particularité, c'est qu'elle se veut universelle. Il y a peu de pays dans le monde qui se veulent universels.
Oui, oui, je pense que ça fait partie, en effet, d'une sorte de paradigme de penser qu'il n'y a pas beaucoup de pays laïcs. D'une certaine manière, et que ça serait quelque chose qu'on doit absolument défendre, et que il y a beaucoup de gens qui souhaitent que nous défendions ou que les Français défendent la laïcité comme un concept, et puis que c'est la patrie des droits de l'homme, et que sais-je encore. Je pense que oui, il y a une sorte de représentation d'un destin culturel plus qu'un destin économique, et puis l'idée qu'on est une sorte de voilà de résistant face à une puissance anglo-saxonne très importante. Donc ça nourrit des représentations paradoxalement Union européenne. Je sais pas, je pense que c'est pour ça aussi qu'on peut trouver des réponses un petit peu contradictoires entre l'Europe et puis l'Union européenne comme un système, une machine sur laquelle on ne peut rien et sur laquelle les citoyens devraient pouvoir reprendre le pouvoir, d'où les propositions de faire une assemblée de la zone euro ou finalement sur les
une
décisions.
Une Europe à plus de vitesse.
Surtout sur les décisions économiques, les citoyens pourraient avoir une forme de droit de regard.
Bieraski.
Oui, je voudrais revenir sur cette image effectivement qui a frappé tout le monde, y compris en France, parce qu'elle a surpris, qui est ce drapeau européen que brandit Emmanuel Macron dans sa campagne et qui tranche avec plusieurs années où on avait plutôt tendance à mettre
son
sentiment pro-européen sous le tapis plutôt qu'à l'afficher. Et je pense que ça correspond à deux choses. La première, c'est qu'il y a eu une succession d'événements quand même, sans remonter à la crise grecque, à la crise des migrants, qui ont été des vraies tragédies, disons, pour le sentiment de cohésion européenne. Mais on a eu le Brexit et on a eu Trump. Et tout d'un coup, je pense qu'on a senti l'édifice vraiment vaciller. Les crises précédentes ne laissaient quand même pas présager, parce que on est habitué aux crises en Europe. Hein, le nombre de nuits que, en tant que journaliste, j'ai pu passer dans les sommets où on devait régler le chèque de Madame Thatcher ou la crise budgétaire, etc.
Ou le chèque de la politique agricole commune.
Voilà, l'Europe a fonctionné comme ça. Mais là, tout d'un coup, le Brexit, c'est-à-dire un pays qui, pour la première fois, décide de sortir, puis un Trump ouvertement hostile à l'Union européenne, y compris sur les questions de défense. Je pense qu'on a eu une sorte de piqûre de réveil qui fait que Macron, avec son positivisme, puisque c'est quand même ça son tempérament dans cette campagne, qui brandit ce drapeau européen, nous rappelle à un moment où on doute, mais véritablement, sur notre devenir dans ce monde de plus en plus complexe, que peut-être que on ferait bien de s'accrocher quand même à cette maison qui certes va mal et qu'on va essayer d'améliorer, mais qui est la seule chose tangible dans cette planète en folie.
Stéphane Seydernoff, on compte aussi beaucoup sur Trump et sur le Brexit, et on pourra rajouter Vladimir Poutine pour relancer l'Europe en Allemagne.
En Allemagne, c'est un peu comme en France, hein. Il y a des pro-européens et des plus sceptiques, et des pro-européens, au moins, ils sont venus avec un argument qui m'a surpris ces derniers jours. Ils ont dit que, attention, en direction du gouvernement allemand, si Emmanuel Macron il est élu au deuxième tour, c'est en quelque sorte la dernière chance. Vous ne trouverez pas meilleur partenaire qu'Emmanuel Macron. Et si vous ne bougez pas votre position, si vous continuez à insister sur cette idée de l'austérité, de « on change rien », mais en 5 ans, on aura Marine Le Pen pas seulement au premier tour.
Vous voulez dire que c'est le moment et que les Allemands ont pris conscience qu'il fallait mettre un peu d'huile dans la rigueur budgétaire, c'est un peu ça l'idée ?
Une partie des Allemands au moins. Vous voyez aussi ce mouvement autour de Schulz, le candidat à la chancellerie des socialistes, des SPD, que personne ne s'attendait à voir ça, qu'il y a avec son aura de président du Parlement européen, qui ne connaît rien à la politique de l'Allemagne, et il réussit quand même à créer une formidable dynamique, à créer de l'espoir avec un message, encore une fois, pro-européen, sans que ce soit austéritaire ou antisocial ou quoi que ce soit.
Ariane Baptiste, vous qui avez parcouru la France, rencontré donc des milliers de Français, vous nous avez déjà un peu expliqué que globalement, le sentiment anti-européen, lorsqu'on parle un petit peu avec les gens, il ne s'exprime pas tout de suite. En tout cas, il y a une forme de rejet, de déception peut-être, mais après, il y a des explications, c'est-à-dire que ça pourrait fonctionner mieux. Est-ce que le thème de la rigueur budgétaire, qu'on baptise plus souvent sous le thème d'austérité parce que c'est plus pratique à dire, est-ce que c'est un thème qui est revenu souvent ou pas, Baptiste?
Moi je voudrais juste revenir sur l'élection de Trump, qui a fait énormément, je pense, grandir le sentiment européen. On a eu, après l'élection de Trump, les gens nous ont très souvent parlé d'une défense européenne unie. Et donc c'est assez drôle. Voilà, sa défense. Et donc c'est assez drôle de voir que quelque chose de négatif, avoir quelque chose de peut-être un peu positif pour la France, pour l'Europe.
Mais ils nous ont pas tellement parlé de questions budgétaires et économiques, finalement, à part quelques-uns qui nous ont parlé de solidarité avec la Grèce en particulier. C'était plus des questions communicationnelles, finalement, sur le fait que l'Europe n'expliquait pas suffisamment ce qu'elle faisait, qu'elle n'était pas concrète, que c'était une complexité absolument incroyable. Les rares qui sont allés sur le site de l'Union européenne ont pu constater qu'il y avait plusieurs sites internet, enfin, c'était pas du tout clair, et il y a une vraie attente plutôt d'information, mais sur l'Europe en général. Donc ça passe par une vraie demande d'information par rapport aux médias, donc il faudrait que plus de gens écoutent RFI et Carrefour de l'Europe, une vraie information dans les médias, une vraie information sur le terrain, dans les espaces publicitaires. Dis si des grands vendeurs internationaux de chaussures sont capables de nous vendre des baskets alors qu'on en a acheté il y a 2 semaines, a priori l'Union Européenne devrait être capable de communiquer sur l'existence, par exemple, de choses très demandées, comme un Erasmus pour les professionnels ou pour les formations en alternance, par exemple, ça existe, personne n'est au courant. Comme, par exemple, une plateforme qui mettrait en commun les établissements scolaires par rapport au sentiment européen des plus jeunes, ça existe déjà, ça s'appelle eTwinning. Il y a beaucoup de choses comme ça, quand on dit aux gens que ce qu'ils proposent existe déjà, donc on le note, mais on leur dit que ça existe déjà, ils nous disent, mais pourquoi on n'est pas au courant?
Alors c'est vrai que l'Europe, c'est compliqué dans tous les cas de figure, Pierre Askim.
Oui, c'est vrai que c'est compliqué, mais c'est aussi très concret. Vous savez, un des moments clés, je pense, de cette campagne du deuxième tour, déjà eu lieu, c'est la bataille d'Amiens, comme
la bataille de la Somme,
c'est-à-dire le conflit autour de l'usine Whirlpool, où se sont rendus dans la même journée Marine Le Pen le matin et Emmanuel Macron dans l'après-midi. Donc l'usine Whirlpool ferme et délocalisée par cette entreprise en Pologne, avec des salaires beaucoup bien inférieurs. Et donc, les deux candidats sont allés sur place. Marine Le Pen a promis le patriotisme économique, on ferme les frontières et...
On maintient l'usine.
On maintient l'usine et donc on crée une sorte de protectionnisme qui devrait recréer ses emplois. Et Emmanuel Macron a tenu un discours beaucoup plus complexe, évidemment, dans lequel il dit on n'a pas intérêt, nous, la France, à fermer les frontières puisqu'on exporte. Et il cite l'exemple de l'usine d'à côté qui exporte 80% de sa production. Et donc, il a un discours qui est évidemment plus difficile à recevoir de la part de gens qui se voient condamnés au chômage parce que on leur préfère des ouvriers qui sont payés 4 fois moins. Dans cet espace européen, on ne parle pas de la Chine ou du Bangladesh, on parle de l'espace européen. Et donc, il y a cette ambiguïté permanente, parce que ça fait quand même au moins 20 ans qu'on parle de l'Europe sociale, par exemple, qu'on n'a jamais réussi à construire parce qu'elle contredirait justement des règles comme ça. Donc il y a cette ambiguïté, je trouve, très très forte dans le discours européen, qui est cette incapacité à affronter ces questions. L'autre question, vous en avez parlé, on en a parlé tout à l'heure dans les réactions des gens, c'est celle de la fiscalité. Emmanuel Macron cite à juste titre l'amende colossale qui a été infligée à Apple par Madame Vestager, la commissaire à la concurrence, et qui déplaît d'ailleurs à l'Irlande, qui jouait sur cette concurrence fiscale. Mais voilà un enjeu absolument colossal pour l'Europe. Mais pour l'instant, on voit pas l'harmonisation fiscale se présenter. Or, on peut pas faire rêver les gens sur un espace européen qui serait un espace de concurrence fiscale, sociale, parce que ça remet en cause notre sécurité en tant qu'individu, où tout peut s'écrouler le lendemain si on nous préfère un emploi dans un paradis fiscal ou dans un pays moins disant socialement. Donc c'est une des contradictions de cette Europe aujourd'hui, qui est dans une période de transition. En même temps, quand on arrive en Pologne et qu'on voit le chemin qui a été parcouru par ce pays au cours des 25 dernières années, c'est absolument impressionnant, parce que la Pologne a fait était une des success stories, alors elle l'est moins aujourd'hui sur le plan politique, mais en tout cas
sur le plan économique,
c'est un vrai
succès. Elle n'a jamais connu la récession, par exemple. Carrefour de l'Europe, nous sommes avec Pierre Aski, avec Barbara Loyer, avec Stéphane Seydendorf, avec Ariane Forgue et Baptiste Hainaut. La France et l'Europe, une incompréhension et un malaise. Stéphane Seydendorf, la vraie question, c'est est-ce qu'on s'en replie sur soi ou est-ce qu'on s'ouvre au monde? Comment on répond à cette question en Allemagne? On voit bien qu'en France, c'est un vrai problème. Elle est loin, un problème qui est loin d'être tranché. Est-ce que les Allemands sont beaucoup plus, c'est beaucoup plus clair dans leur tête?
Sur certains aspects, oui. Cette idée que on est dans le monde, on est une économie qui exporte beaucoup, comme vous le savez, ça ne fait pas de doute. Donc, c'est évident qu'on ne peut pas sortir du monde et en quelque sorte revenir au 19e siècle ou même avant. Là-dessus, il y a très peu de discussions. Et même, j'étais frappé en préparant l'émission, comment on trouve très peu de discussion comment on peut régler ou gouverner au-delà des frontières cet espace économique, donc au niveau européen, au niveau mondial. Ça pose même pas, les Allemands, ils se posent même pas la question. Peut-être on peut aussi dire, ils ont l'expérience, de par leur force exportatrice actuellement, qu'ils réussissent dans cette mondialisation. Leurs entreprises réussissent et puis les gens, ils sont au travail, la plupart au moins. Tout ça, évidemment, est aussi venu avec un certain prix.
Alors, les Allemands réussissent à exporter, mais les Européens ont beaucoup de mal à être dans l'économie d'aujourd'hui. On rechercherait en vain un Google européen, un Facebook européen, un Uber européen. Qu'est-ce qui fait que ça n'a pas marché, qu'il n'y a pas eu de grandes entreprises européennes qui soient concurrentielles avec les grandes entreprises américaines? Pierre Aski, vous avez envie de répondre.
Il y a une réponse très simple, en fait, c'est que l'Europe s'est construite avec des grands plans qui partaient d'en haut. Airbus, on fait pas un Airbus à partir d'une start-up, on fait un Airbus à partir de gros ensembles étatiques qui décident de travailler ensemble, et c'est le cas pour un certain nombre de grands programmes européens. Le numérique, c'est exactement l'inverse. Google n'est pas né d'un système de planification, c'est né dans un garage de Californie. Et c'est là qu'on a un problème, c'est que aujourd'hui, ça, c'est en train de changer petit à petit, mais c'est encore loin du compte. Une start-up française, elle se pense d'abord française, ensuite elle va essayer de gagner le champ européen avant de se mondialiser. Une start-up américaine, elle se pense d'abord et immédiatement mondiale. Et l'Europe, de ce point de vue-là, a perdu, je pense, une décennie à essayer de monter des usines à gaz en réponse. Le Google français, le Google européen, etc. Les grands plans comme elle sait faire, et ce qui a marché pendant un certain temps. Et je pense que c'est totalement inadapté à l'économie l'économie numérique. Je pense qu'aujourd'hui, on en revient à une autre logique qui est celle de permettre l'émergence de cette floraison de jeunes pousses et de les croiser. Emmanuel Macron justement parle d'un Erasmus des startups, c'est-à-dire qui permet à des jeunes entrepreneurs une phase de création de leur entreprise, d'aller passer 6 mois à Barcelone et de tisser des liens avec le tissu technologique là-bas, etc. De faire des échanges européens, là où aujourd'hui les barrières de la langue, des modes de financement, de la culture d'entreprise sont des obstacles réels.
Ariane et Baptiste, est-ce que parmi les gens que vous avez rencontrés, l'idée que l'Europe est allée trop loin et trop vite est revenue assez souvent? C'est-à-dire que il y a 27 pays aujourd'hui, je laisse de côté le Royaume-Uni qui est sur le départ, donc 27 pays, une frontière qui est quand même très très loin. Autant quand on était français, on avait pu rencontrer un Belge, un Allemand, un Italien, comme dirait Jean-Luc Mélenchon, vous en avez déjà rencontré, vous, un Letton. Est-ce que c'est quelque chose qui est revenu dans les propos que vous avez entendus, que l'Europe était allée trop loin et trop vite?
Oui, bien évidemment, c'est revenu assez souvent. Il y a souvent cette volonté d'un noyau dur européen.
Entre 6 et 10 pays, quoi, où on s'approfondirait. Et d'ailleurs, la question des entreprises européennes, il y a aussi la question juridique. Si on veut créer une entreprise européenne, quand vous dites une start-up se pense d'abord française, c'est parce qu'au niveau juridique, elle est dépendante du droit français. Il n'y a pas aujourd'hui de possibilité de créer des entreprises européennes, des associations européennes, ce qui est d'ailleurs une proposition qui est revenue. Mais du coup, au sein de ce noyau dur, effectivement, les gens voudraient qu'on aille plus loin.
Stefan Seelendorf, je reviens avec vous sur cette difficulté d'avoir une vision européenne à 27. Pieraski évoquait les problèmes avec la Hongrie et la Pologne, des pays qui ont beaucoup de mal à respecter les valeurs européennes, et qui, par exemple, pour la Hongrie, vient de décréter unilatéralement que son taux d'imposition des sociétés, ce serait 9%. C'est encore plus fort que ce que font les Irlandais, alors qu'en France, on est autour d'une trentaine de pourcents, et qu'en Allemagne, on est à peu près de manière à peu près équivalente. Comment avoir une vision européenne à 27, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il y a, par exemple, une réflexion, une tendance allemande sur le sujet?
Mais Ariane l'avait déjà dit très justement à l'instant, c'est très difficile à imaginer une vision politique, dans l'état actuel des choses, au moins, à 27. Mais ce qu'on sait faire en Europe, c'est d'avoir un cadre juridique commun. Ça, déjà, ce serait une bonne chose si on pouvait se mettre d'accord juridiquement sur... par exemple, le haut et le bas de la fourchette sur les impositions, sur un statut d'entreprise européenne, sur ces questions, comment on peut effectivement gouverner un grand marché commun. Et là, on peut beaucoup apprendre de l'histoire de l'Europe des années 80, où justement, en créant un cadre juridique commun, on a fait avancer l'Europe sans nécessairement attendre le jour où on avait un gouvernement européen qui imposerait une vision politique. Là, je pense les peuples ne sont pas prêtes, les Français, les Allemands, les premiers, et puis les pays en Europe de l'Est également, ils auraient des problèmes.
Barbara Loyer, une vision européenne, d'un point de vue de la géographe que vous êtes.
Bah écoutez, en fait, ce qui reste encore sans doute très fort, c'est les raisons pour lesquelles au départ les Français sont allés vers la construction d'une Europe, leur rapport à l'Allemagne, la volonté de reprendre le contrôle de cette Allemagne, puis de peser dans l'alliance, on va dire, Allemagne-États-Unis, et de s'imposer dans ce concert-là, donc de se servir de l'Europe comme un levier de puissance et pour garder sa puissance. Et ensuite, toute la suite de la construction européenne a quand même été très marquée par cette rivalité franco-allemande. On parle du couple franco-allemand, mais il y a quand même une rivalité forte, les uns tendant vers l'élargissement vers l'Est, les autres essayant de développer les relations vers le Sud. Et toute l'histoire, en fait, de ces élargissements et des partenariats Est-Sud révèle en fait ces rivalités qui sont quand même encore beaucoup des rivalités nationales. Je pense qu'on mettra un petit peu de temps encore à dépasser ce point de vue dans lequel les Allemands ont quand même plus d'intérêt vers l'Est que les Français. Et c'est vrai que ce déséquilibre a marqué. Puis l'euro, avec le modèle d'une banque centrale européenne qui est calquée sur le modèle de la banque centrale allemande, c'est aussi un déséquilibre qui a été ressenti en France comme une sorte de marginalisation. Donc tout ça, c'est compliqué. Et c'est d'autant à dépasser, on va dire, comme point de vue, des points de vue très nationaux. Et c'est d'autant plus compliqué que c'est quand même l'enseignement sur l'Europe à l'école est d'un ennui insurmontable. raisonnable. C'est quelque chose sur le système, mais en aucun cas on va vous raconter des histoires géopolitiques, des histoires communes.
Et au lycée, les étudiants apprennent l'histoire de France.
Récit, voilà. On a un récit national avec qui est parfois déconstruit, reconstruit, tout ce qu'on veut, mais il n'y a pas de récit européen à l'école. C'est absolument indigeste. Enfin, on sait tout sur le FEDER, mais franchement, c'est pas avec ça qu'on.
Pour ceux qui font des études européennes. Alors d'un mot. On arrive au terme de l'émission. 20 secondes chacun, une idée pour relancer l'Europe. Je commence par vous, Stéphane Seydendorf, qui voulait être positif à tout prix. Allez-y, 20 secondes, une idée pour relancer l'Europe.
Une assurance chômage pour les jeunes.
Barbara Loyer, 20 secondes, une idée pour relancer l'Europe.
Moi, je pense qu'il faut réfléchir à ces questions d'enseignement et de construction d'un récit européen.
Un récit européen. Ariane et Baptiste, peut-être qu'ils vont parler du même mot, on ne sait pas.
Donc là, on reprend effectivement la proposition de Barbara. C'était la question d'une vraie éducation civique européenne et idéalement qui serait une matière enseignée de façon égalitaire, identique dans toute l'Europe.
Baptiste, vous êtes d'accord avec Ariane ou vous rajoutez un petit mot?
Oui, une histoire européenne, c'est une très bonne idée.
Et vous, Piraski, le mot de la fin, comment relancer l'Europe, une idée?
Je pense que ça passe par les jeunes, donc développer Erasmus vers de nouvelles catégories, vers l'apprentissage, vers des gens qui n'ont pas nécessairement suivi les cursus qui sont aujourd'hui ceux que privilégie Erasmus, pour favoriser les échanges, la connaissance. Ce sont des expériences humaines qui marquent à tout jamais les jeunes qui les font.
Merci à tous les cinq d'avoir été au carrefour de l'Europe. Piraski, je rappelle le titre de votre livre, Le droit au bonheur chez Stock, et Barbara Loyer, le dernier numéro de la revue Hérodote, consacré aux menaces sur l'Europe. Réalisation Philippe Gaillou. Merci à France Bleu Alsace. Vous pouvez réécouter cette émission et toutes les autres sur votre ordinateur, votre tablette ou votre smartphone via RFI.fr ou via les applis mobiles et gratuites de RFI. On reste en contact avec Twitter et Facebook. Daniel Desescalou, que vous soyez en Europe ou dans le reste du monde, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et tout de suite un nouveau journal sur RFI, la radio de l'Europe et du monde. Au revoir.